Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le canal de Panama, un siècle d'histoire, c'est le titre du grand album que Marc de Banville publie chez Glénat, en coédition avec la Société de Géographie. Franck Ferrand s'est plongé dans sa lecture. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Le creusement de ce canal entre l'Atlantique et le Pacifique aura été une des grandes aventures du génie humain. Je suis très heureux de la revivre, cette aventure, avec vous cet après-midi, et en compagnie de Marc de Banville, l'auteur de ce beau livre, et de notre Miss Liberty à nous, j'ai nommé Nicole Bacharan.
Et puis à la fin d'émission, vous répondrez à la question d'Axel. Il souhaite connaître l'origine de l'expression « montrer patte blanche ».
Axel nous renvoie au conte de notre enfance. Pour le moment, c'est un conte moderne que je vous propose d'entendre, un conte de géant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cela faisait longtemps, bien longtemps, que les hommes rêvaient de réunir ces deux grands océans, les deux plus grands océans de la planète, l'Atlantique et le Pacifique. L'idée, elle remonte probablement à la découverte du continent du Nouveau Monde par les Occidentaux. On avait dit, vous savez, à Christophe Colomb qu'il existait, je cite, « une terre étroite entre deux mers qui lui aurait permis d'atteindre les Indes ». Et c'est vrai que la façon d'enjamber, si je puis dire, ce Nouveau Monde pour aller retrouver l'autre côté de l'ancien a fasciné les navigateurs et les explorateurs pendant très longtemps. Cette histoire du creusement du canal de Panama est essentielle dans l'histoire du monde parce que, au-delà de l'exploit technique, elle nous en dit long sur la suprématie nouvelle des États-Unis au tournant du XXe siècle. C'est d'ailleurs l'aspect sur lequel nous aurons tendance tout à l'heure à nous étendre. Il y a deux histoires du canal de Panama en quelque sorte. Il y a d'abord les travaux français et puis ensuite les travaux américains. Et même mon invité est en train de me faire signe qu'il y en a une troisième. On va y venir tout à l'heure. C'est en tout cas une aventure humaine, scientifique, technologique et technique hors du commun. Une réalisation qui, à son origine, trouve celui qu'on surnommait le grand français. J'ai eu l'occasion déjà de vous en parler un certain nombre de fois ici, à ce micro. Ce grand français, c'est évidemment Ferdinand de Lesseps, célèbre dans le monde entier pour avoir ouvert la voie des Indes, pour avoir creusé le célèbre canal de Suez. Il avait dû, au moment de l'inauguration de son canal, connaître des émotions extraordinaires, Ferdinand de Lesseps, et il a voulu les revivre d'une certaine manière. Il a cherché à renouveler son exploit. Et pourtant, il n'est plus tout jeune. Il a 74 ans, le grand français, au moment où il se lance dans cette histoire. Ce héros de Suez qui a l'intention d'ouvrir donc une voie entre l'Atlantique au nord. Alors je vous dis au nord parce que évidemment nous sommes là dans l'Amérique centrale et que la langue de terre, si je puis dire, elle s'étire de l'ouest à l'est, et donc l'océan Atlantique se trouve au nord et l'océan Pacifique se trouve au sud. Je dis ça pour que vous l'ayez à l'esprit, qu'on n'ait pas l'impression de passer simplement d'est en ouest. Il y a un travail considérable à accomplir, et d'autant plus que, grande différence avec ce qu'on avait à Suez, le niveau de l'eau des deux côtés, si je puis dire, n'est pas le même. Il y a un dénivelé à vaincre, en l'occurrence. Alors, des difficultés, elles sont liées à la jungle, elles sont liées aux fièvres qui peuvent exister dans ces régions extrêmement marécageuses, elles sont liées à la chaîne de montagnes, la Culebra, dont on parlera évidemment, avec aussi une rivière extrêmement impétueuse, imprévisible, une des plus difficiles à prévoir, cette rivière qu'on appelle la Chagresse. Pourtant, Lesseps va tenir bon et il a l'intention de construire un canal à niveau, comme à Suez. Hein. On est là en mai 1879. Il préside le Congrès international d'études du canal interocéanique et d'emblée, et c'est une des difficultés, une de celles dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont des difficultés d'ordre politique. Est-ce que l'on va creuser d'abord au Nicaragua, à Panama? Et puis, il faut vous dire que il n'y a pas que des amis, et d'un côté et de l'autre, bien entendu. Il va falloir un an pour élucider un peu les différents problèmes, pour éclaircir la situation. Et en août 1879, Lesseps lance une souscription de 400 millions de francs. Souscription d'ailleurs qui est difficile, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se passe pas bien du tout. Il faut donc accompagner l'entreprise de toute une campagne de publicité. Lesseps réussit à communiquer son enthousiasme aux souscripteurs qui vont finir par apporter un peu plus d'argent. On va avoir 600 millions avec des premières dépenses qui tout de suite vont dépasser toutes les estimations. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure, hein, sur tous ces problèmes financiers. Le véritable combat pendant les 8 années qui suivent, c'est un combat contre les éléments, si je puis dire, contre la nature, contre la jungle. Un combat dont l'issue est pour le moins incertaine. Il faut vous dire que les Français auront tout connu dans cette affaire. Les incendies, les inondations, les tremblements de terre, et puis des épidémies qui vont avec tout cela, bien entendu. Fièvre jaune, il ne faut pas oublier les aspects humains d'ailleurs, avec notamment une corruption galopante. Ils ont été, ces ingénieurs français, confrontés à une tâche titanesque dans un environnement hostile. Les Français vont changer plusieurs fois leur plan et l'organisation des travaux, jusqu'à aller d'ailleurs, alors qu'on était parti sur une idée d'un canal de niveau, jusqu'à aller à adopter un projet à écluse. Là, on est en 1887. Ça fait longtemps que la plupart des ingénieurs qui travaillent sur le chantier demandaient l'adoption de ce principe d'un canal à écluse. D'accord, dit Lesseps, si vous voulez des écluses, mais alors des écluses Eiffel. Il faut vous dire que 1887, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On est dans la grande époque de l'ingénieur Gustave Eiffel, bien entendu, qui est le plus prestigieux du moment et qui est en train de bâtir à Paris sa célèbre tour qui sera inaugurée 2 ans plus tard et dont le chantier a commencé 1 an plus tôt. Les travaux sont efficaces néanmoins, mais plus on avance et moins les souscripteurs et notamment les petits y croient. C'est ça qui est assez étonnant. Les comptes de la compagnie universelle ne sont pas bons, ils sont pas bons du tout. On va voir peu à peu de grandes banques abandonner le projet, jusqu'à aboutir à la faillite de la compagnie universelle du canal de Panama. La faillite est déclarée en 1889. Ça, c'est le début d'un scandale sur lequel je vous propose de revenir tout à l'heure en compagnie de mes invités, car ce scandale de Panama, il a été sans doute un des premiers grands événements de la Troisième République. Et puis il a eu d'ailleurs des répercussions bien au-delà de la France. Ferdinand de Lesseps était déjà fatigué, il était âgé, je vous l'ai dit au début des travaux, il est encore bien plus maintenant, et c'est vrai qu'il va très mal supporter toute cette mauvaise publicité, toute cette infamie qui s'attache au scandale de Panama. Son état mental va se détériorer, il se détériore dès la banqueroute du reste, et on le voit passer ses journées prostré dans un fauteuil au château de La Fresnaye, où il finira par mourir le 7 décembre 1894. En moins d'une décennie, parce que tout ça n'a pas duré une décennie, plus d'un milliard de francs ont été engloutis, des francs de l'époque. Hein, je vous parle d'une monnaie forte et équivalent, avec son équivalent d'or. 1 milliard de francs engloutis dans l'opération, des accidents, des maladies, des difficultés sans nombre. Nous reviendrons sur le chiffre des morts, qui d'ailleurs pose problème, qui n'est pas le même sous la plume de tous les auteurs. En tout cas, cette affaire a l'air de devoir définitivement tourner à l'échec. Cela passe pour un vain sacrifice. Le chantier du canal de Panama, néanmoins, est à celui qui voudra bien s'en emparer, si je puis dire. Et c'est là que nous entrons dans la phase américaine de l'opération.
extrait de la bande originale du film Le Tailleur de Panama sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au creusement du canal de Panama.
Alors nous allons voir que dans le passage de la France, le passage de relais, si je puis dire, de la France aux États-Unis, deux personnages vont jouer un rôle décisif. C'est d'une part un avocat américain qui s'appelle William Nelson Cromwell et de l'autre le célèbre ingénieur français Philippe Bunau Varilla. On y reviendra tout à l'heure à ça aussi et aux circonstances qui ont présidé à ce fameux passage de relais. Il faut avoir une idée de ce que peut être la puissance américaine en cette toute fin de 19e siècle. Les États-Unis, on ne les a pas vus venir, si je puis dire. Ils ont passé ce 19e siècle à s'enrichir, à se développer, à connaître une véritable expansion également sur leur double continent. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces États-Unis ont connu bien sûr la guerre de sécession et qu'ils accèdent dans les années 1890 à une forme d'expansionnisme qui est contraire même à la pensée de leur père fondateur. C'est assez fondamental cette histoire. En tout cas, ils ont bien l'intention de rayonner au-delà des frontières et surtout, ils ont bien l'intention de rallier le plus facilement possible depuis leur puissant port de la côte Est tout ce qui peut se passer dans le marché du côté du marché asiatique, bien entendu. Alors, les États-Unis vont reprendre ce chantier. Et pour attaquer les travaux, il leur faut des droits pour l'exploitation des terres de Panama. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, Panama est encore sous le contrôle de la Colombie. Ça, c'est un problème politique majeur. La Colombie s'était entendue avec la France. Elle n'est pas prête du tout à s'entendre avec les États-Unis. Elle va d'ailleurs finir par rejeter le traité. Et alors là, pour les États-Unis, il y a deux options. Soit ils envahissent littéralement le Panama, soit ils font en sorte que le Panama se libère tout seul, d'une certaine manière, et proclame son indépendance. On est très très bien renseigné à Washington sur tout ce qui se passe, bien entendu. Toute l'élite panaméenne passe son temps en relation avec la classe politique américaine. Et Washington va encourager, bien entendu, à l'insurrection. Les États-Unis vont être les premiers à reconnaître cette République du Panama, et pour cause, serait-on tenté de dire, et la signature du traité reconnaissant aux États-Unis la souveraineté totale sur toute la zone du canal va être le premier traité pris par le nouvel État. Vous imaginez, tout ça a l'air en quelque sorte cousu de fil blanc, ce qui fait qu'en 1904, c'est le premier coup de pioche au Panama, avec des plans qui ne sont pas encore tout à fait précis. Dans une première étape, il s'agit de creuser un canal de niveau, avec évidemment de très gros moyens. 3500 hommes sont mobilisés, 1500 recrues américaines et puis 2000 Antillais qui d'ailleurs étaient là sur place, qui pour la plupart avaient participé aux travaux des Français, qui étaient restés à la suite de l'échec, avec quand même un matériel en très mauvais état, matériel rouillé qu'on récupère pour une grande partie. Tout ça va conduire à un début de fiasco. Il faut imaginer ce que c'est du côté notamment de ce relief, de la Culebra, avec des tonnes de gravats dégagés, mais des trains qui sont trop peu nombreux pour les dégager et des problèmes qui de nouveau sont un peu ceux qu'avaient connus les Français avant les Américains, c'est-à-dire la fièvre jaune qui commence à se déclarer ici et là et qui fait peur, bien entendu, tellement peur du reste que en juin 1905, je vous ai dit qu'on avait commencé les travaux un an plus tôt, en 1904, les trois quarts déjà de la main-d'œuvre américaine, les trois quarts ont quitté l'isthme. Déjà 78 millions de dollars, et c'est reparti, ont été dépensés pour seulement 11 millions de mètres cubes creusés. Je dis 11 seulement, évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça veut dire qu'on est très 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 loin du compte. Un ouvrier d'ailleurs qui va faire passer une brochure qui aura des effets tout à fait dévastateurs dans la main d'œuvre, avait calculé qu'à ce rythme, il aurait fallu plus de 50 ans pour creuser le canal. À peine élu président, Theodore Roosevelt, et voilà le personnage dont nous allons parler évidemment aussi tout à l'heure, tire les leçons de cet échec et il va confier le canal à un brillant ingénieur ferroviaire qui s'appelle John Frank Stevens. Et ce Stevens joue un rôle absolument essentiel. On disait qu'aucun autre homme que lui n'avait posé plus de kilomètres de rails dans sa vie. Ces extraordinaires ingénieurs en ponts et chaussées qui connaissent tous les secrets, tous les petits trucs, et puis qui surtout ont cette espèce d'énergie extraordinaire. C'est un ingénieur du chemin de fer tel qu'on sait les faire aux États-Unis, ce Stevens, un véritable aventurier. Je crois que la proposition que l'on m'a faite, dira-t-il plus tard, est la plus décourageante qu'on eût jamais faite à un ingénieur en travaux publics dans toute l'histoire. Et c'est vrai qu'on lui propose tout simplement de reprendre un chantier impossible. Que fait-il, Stevens, au moment où on lui propose ce chantier incroyable ? Eh bien, il décide, premièrement, de tout arrêter. Ça paraît quand même étonnant, mais je dirais que c'est ce qu'il fallait faire. Remettre à plat, prendre le temps de réfléchir et assainir les différents domaines. Il identifie tout de suite le problème logistique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à acheminer suffisamment de main-d'œuvre, suffisamment de matériel, suffisamment d'outillage sur les zones nécessaires. Et ça suppose tout simplement de créer du chemin de fer. Ça tombe bien, le chemin de fer, ça le connaît. Stevens est le champion de ça, je vous l'ai dit. Il va faire de cette logistique ferroviaire la clé de voûte du nouveau projet. Il exige qu'on lui donne un an pour reconstruire entièrement cette ligne de chemin de fer qui avait été faite en dépit du bon sens avec beaucoup de difficultés. Il conçoit tout un système pour déplacer les rails sans avoir à les démonter. Ça, c'est extraordinaire. En tout cas, de façon très, très partielle. Et son idée la plus astucieuse, c'est faire que la passe de Culebra soit attaquée des deux côtés en même temps. Vous allez me dire, dans l'histoire des ponts et chaussées, on en a connu d'autres. Mais ça va permettre de gagner du temps. Les deux chantiers vont se rejoindre au point culminant avec des wagons qui sont vides pour monter, pleins pour descendre. On a envie de dire, tout ça marche très bien. Monsieur Stevens a tout compris. Est-ce que tout va continuer de lui sourire de cette façon ? C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Pour réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages et vos questions, il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand sur le chantier du canal de Panama.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Stevens et au chantier du canal de Panama.
Alors, je parlais tout à l'heure, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis sur l'histoire du niveau des mers. Par définition, les deux océans, ils sont au même niveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du relief entre les deux océans, bien entendu. On a quand même un gros morceau de terre, ça fait 77 kilomètres à traverser. Et là, il y a des niveaux différents. Et si vous faites un canal dit de niveau, il faut que vous perciez comme vous feriez une brèche dans un gâteau avec un couteau, si vous voulez. Alors que, avec un système d'écluses, vous pouvez vous permettre d'épouser davantage le relief, et donc il y a moins de creusements et moins de déplacements de terre à effectuer. Voilà l'explication que vient de me donner Marc de Banville et qui permet de comprendre pourquoi il y a constamment cette discussion entre les ingénieurs favorables au creusement pur, si je puis dire, de niveau, et puis ceux qui veulent bien des écluses. Or, il se trouve que, et ça Stevens ne l'avait pas prévu, le comité technique qui à Washington supervise l'ensemble des opérations va voter pour un canal à écluses. On veut construire des écluses, mais alors des écluses, pas des petites écluses, qui sont trois fois plus longues que les plus grandes écluses jamais construites. C'est un projet très ambitieux qui d'emblée reçoit le soutien du président Roosevelt. Quand je dis Roosevelt, rien à voir avec Franklin Delano, évidemment, on est avec son lointain cousin quelques décennies plus tôt, c'est Theodore Roosevelt, Teddy, le fameux chasseur d'ours notamment, mais enfin ça on y reviendra tout à l'heure avec Nicole Bacharan. Alors, il faut faire venir du monde, bien sûr, des ouvriers. Selon les calculs, on aurait besoin de 20 000 hommes pour la seule année 1906. Il y a là-dedans des ouvriers qualifiés, des forgerons, des charpentiers, des soudeurs, des plombiers, que sais-je, moi, ça bien sûr. Et puis vous avez surtout beaucoup, les trois quarts, plus des trois quarts même, d'ouvriers non qualifiés, dont le but, ce sont des hommes de peine, si vous voulez. Ils sont là pour débroussailler, pour charger, décharger, etc. D'où une immense campagne de recrutement sur l'île de la Barbade, notamment. les Antillais envoyaient beaucoup d'ouvriers à Panama. Il faut vous dire que pour toute la région, et quand je dis la région, c'est au sens vraiment large, Panama à l'époque, eh bien, c'est la Golconde, hein, c'est le lieu où l'on peut éventuellement devenir riche, évidemment. La réalité était très différente quand on arrivait sur place, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec d'ailleurs ce qu'on appelait des ouvriers d'or, comme le métal précieux, qui étaient plutôt les blancs, si vous voulez, en tout cas les qualifiés, et puis les ouvriers d'argent, qui étaient la main-d'œuvre souvent noire et beaucoup moins bien traitée. Certains avaient des privilèges, d'autres en avaient nettement moins. Il faut vous dire que sur les 24 000 hommes estimés sur le chantier à la fin de 1906, 70% étaient des Antillais. Alors, on a vu les travaux de Stevens en matière de chemin de fer. D'autres très grandes réformes, mais fondamentales, c'est la réforme sanitaire. On fait venir notamment un médecin américain, Gorgias, qui va lancer une campagne d'assainissement très importante. On essaie de cantonner les fièvres, et notamment on a prouvé le rôle des moustiques, hein, dans la propagation de la fièvre jaune et de la malaria, ce qui permettra d'éradiquer ces fièvres en moins de 2 ans. On dit qu'à la fin, on en était sur ce chantier à traquer les moustiques un par un. Ça a été vrai, c'est devenu l'ennemi numéro un, le moustique. Et puis, et ça c'est très intéressant, ce que n'avait pas su ou pas pu faire le vieux Lesseps, c'était mobiliser véritablement les autorités sur un projet comme celui-là. Or là, on voit le président Theodore Roosevelt quitter les États-Unis. C'est la première fois qu'un chef de l'État américain quitte, pendant l'exercice de son mandat, quitte le sol national. Et il vient lui-même à Panama avec, il est entouré de tout un essaim de photographes et de journalistes, vous imaginez. Il est au contact des ouvriers, etc. Il va rendre ce projet passionnant. Et pourtant, fin janvier 1907, Stevens démissionne brusquement. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et à ce moment-là, Roosevelt se dit, mais décidément, cet endroit est maudit. Il me faut quelqu'un qui tienne les choses. Il va nommer un militaire, Goethals, qui sera surnommé le tsar de Panama. Un homme froid, méthodique, tout à fait autoritaire. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et même carrément cassant. Quand il prend ses fonctions, ça fait déjà 3 ans que les Américains travaillent sur le canal. Et le plus gros du travail, disons-le, n'a pas encore été fait. On voit dans la région de Culebra, justement, on voit jour et nuit jusqu'à 6000 hommes s'activer simultanément. On a 300 foreuses, entre 60 et 70 pelleteuses. Quand je vous disais que c'est une opération sans équivalent dans l'histoire, c'est un immense remuement. C'est tout à fait extraordinaire. Tout ça par des chaleurs incroyables, avec un climat étouffant et humide. Enfin, vraiment l'horreur, disons-le. Et on a l'impression en plus que cette montagne, elle résiste, qu'elle refuse de se laisser broyer. Il y a des glissements de terrain de plus en plus fréquents, ce qui va enterrer les machines, mais aussi les hommes. On voit des gens emportés, enterrés vivants. Évidemment, ça fait de beaux sujets pour les récits qui pullulent dans ce début de XXe siècle. Vous savez, les récits d'aventures et de grandes constructions humaines. Il faut vous dire qu'on est dans cette période où l'on croit au progrès et où l'on est sûr que la main de l'homme, bien utilisée, est à même de venir à bout de tous les problèmes et de tous les obstacles naturels. En 1911, on peut dire que les progrès sont significatifs et que là, tout le monde est maintenant certain qu'on va y arriver. Jusqu'alors, la quantité de ceux qui doutaient de l'efficacité des travaux était plus grande que celle de ceux qui y croyaient. Eh bien, à partir de 1911, ça s'inverse. D'ailleurs, il y a vraiment un indice tout à fait parlant, c'est qu'on va voir des touristes venir de plus en plus nombreux sur le site du creusement, ce qui prouve d'une part qu'il y a moins de moustiques et d'épidémies, et deuxièmement, qu'on est en train de voir aboutir une des grandes créations humaines. Au printemps 1913, on peut commencer les travaux de finition et le 10 octobre de cette année 1913, la voilà la date à retenir, le président Wilson, depuis son bureau de la Maison Blanche, envoie par télégraphe le signal électrique qui va déclencher l'explosion de la dernière digue à l'entrée de la passe de la Culebra. Ça, c'est quand même un signe de modernité, non? On ne lui fait pas faire le voyage une deuxième fois au président. Il est dans son bureau à la Maison Blanche, il appuie sur un bouton et si loin de là, à des centaines de kilomètres, on va voir exploser, ce qui permettra enfin de relier les deux océans. Bonjour à mes deux invités, merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai posé un certain nombre de questions que j'ai laissées en suspens pendant le cours de ce récit. Nous y revenons en votre compagnie dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du canal de Panama avec vos invités. Marc de Bonville, historien et grand reporter, auteur du canal de Panama, un siècle d'histoire aux éditions Glénat, la société de géographie. Et puis Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis. Son dernier ouvrage coécrit avec Dominique Simonet, Les secrets de la Maison Blanche aux éditions Perrin.
Ça a dû être un événement extraordinaire que cette ouverture du canal de Panama depuis le bureau du président Roosevelt, Nicole Bacharan.
Mais c'est absolument énorme et vous aviez raison dans ce récit de souligner cette période très particulière dans l'histoire des États-Unis. Vous avez dit une formule que je trouve tellement juste, on ne les a pas vus venir.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai parce que ça n'était pas un pays de puissance militaire, ça n'était pas un pays dont la puissance industrielle était visible de l'extérieur. Au début du XXe siècle, effectivement, les États-Unis sont, ils réalisent finalement
leur propre puissance. Et ils vont la réaliser au sens matériel du terme avec la Première Guerre mondiale un tout petit peu plus tard, mais juste un tout petit peu. Alors, on va revenir sur toute cette histoire, très passionnante bien sûr, mais un mot peut-être de ce qu'est aujourd'hui le canal de Panama. Quel est son statut et quelle est la position des États-Unis justement, Nicole Bacharan?
Le canal de Panama reste une route commerciale absolument essentielle, puisque pour passer d'un océan à l'autre, soit les containers, les navires passent par le canal de Panama, on dit à peu près 14 000 par an. Soit ils font le tour par le Cap Horn, une route extrêmement dure, dangereuse et au demeurant extrêmement, extrêmement longue. Donc ça reste commercialement essentiel. Sur le plan stratégique, militaire, c'est beaucoup moins important pour les Américains. Et après pas mal de décennies de conflits avec la République du Panama...
Que les Panaméens ont joué un rôle important dans l'histoire très récente des États-Unis. Moi, je me rappelle, quand je faisais mes études, on ne parlait que de ça, même à l'époque. C'était
absolument
vraiment...
Absolument, il y avait vraiment conflits, tensions. Et après, il y a eu un traité en 1977 avec Jimmy Carter qui leur redonnait une partie du contrôle, et 99 avec Bill Clinton, les Panaméens reprennent, ont pour la première fois totalement le contrôle du canal.
Il leur aura fallu presque un siècle pour avoir leur propre canal. Après tout, il est chez eux quand même, hein, ce canal, qu'on le veuille ou non.
Les Américains ont eu beaucoup de mal à réaliser que c'était quand même chez les Panaméens, puisque c'est eux au fond qui ont créé cette République du Panama.
Donc, je parlais de deux étapes et vous me disiez même, en fait, Marc Banville, trois étapes dans l'histoire de ce creusement et de ce canal.
Mais tout à fait, parce que la première étape, je dirais que le canal de Panama, c'est trois peuples, trois siècles, un canal. C'est-à-dire que vous avez un canal du 19e siècle qui est pensé pour une flotte en général en bois avec des voiles, hein, qui est une flotte surtout coloniale, qui est pensée en Europe. Donc un canal étroit, hein, le canal par exemple, les écluses dessinées par Eiffel en 1887 font 22 mètres de large. Bon, donc on est sur un canal extrêmement étroit. On est sur un canal dans lequel on pense et on calcule. C'est un canal qui est pensé pour une vision du commerce, qui est un commerce colonial. D'accord. Donc ce canal-là, c'est celui de Ferdinand Lesseps, c'est celui qui va échouer. Ensuite, il y a le canal américain, qui est un canal d'une nouvelle puissance, qui est un canal pensé pour les militaires, avec des écluses à la taille des futurs cuirassiers.
Puis qui, C'est celui du
XXe siècle. C'est celui avec une vision du XXe siècle, celui qui va héberger, dès qu'ils vont être construits, les premiers porte-avions. C'est celui qui va jouer un rôle clé lors des deux conflits mondiaux, surtout le second. C'est un canal extrêmement stratégique, et un canal aussi qui est le verrou des Caraïbes, une mer qui est le Mare Nostrum américain. Donc ça, c'est le second canal. Et le troisième canal, c'est un pays émergent. C'est un canal du 21e siècle qui est en train de se creuser aujourd'hui, qui a pris un peu de retard, mais qui va se creuser, et qui est un canal pour la globalisation, qui est un canal, si vous voulez, aujourd'hui, un porte-container au maximum peut porter, on va dire, 4500 équivalents 20 pieds. Dans les nouvelles écluses, il pourrait en passer au moins 12 000. Alors maintenant, les estimations augmentent, on dit plutôt 13 000. C'est quand même énorme comme capacité de transport supplémentaire.
Vous êtes en train de me dire qu'on est en train actuellement d'élargir, d'agrandir, de recreuser le canal de Panama.
On est en train de faire une troisième voie. En ce moment, il y a des gros travaux qui ont été approuvés par référendum au Panama en 2006, qui ont débuté en 2007. Qui aurait dû se conclure lors du centenaire du canal en août dernier, donc août 2014 au Panama. D'ailleurs, j'y étais. Et le nouveau canal, le canal élargi, n'était pas au rendez-vous. Mais les travaux avancent énormément. On est aujourd'hui à plus de 95% de préparation, mais il reste encore de grosses étapes à faire. C'est assez compliqué parce qu'il y a des compagnies qui sont en gestion de tout ça. Celles qui gèrent ça, ce sont les Panaméens. Donc le premier était sous l'idée des Français. Le second, par le gouvernement américain. Le premier, c'était une compagnie privée française qui échoue. Voilà. Ensuite, le gouvernement américain. Et maintenant, on a une entité, une entreprise autonome publique panaméenne qui est en charge de l'élargissement dans un 21e siècle. Pour qui ? C'est le canal du 21e siècle, le canal à globalisation, la porte vers l'Asie.
Très intéressant de voir ces trois étapes puisqu'elles sont parfaitement représentatives, chacune du siècle qui les a vues naître. Hein. Alors, vous, ce que vous nous dites quand on feuillette votre très beau livre, admirablement illustré, très précis, très pointu, un très très beau livre, ce qui est une sorte d'album univers dans lequel on se promène, hein, littéralement, c'est que si le canal du 21e siècle existe, c'est parce qu'il y a eu celui du 19e siècle que les Américains ont un peu eu tendance à passer sous silence. Vous nous dites que le travail des Français a été essentiel dans cette histoire.
Absolument. La plupart des livres d'histoire qu'on trouve aujourd'hui sont écrits par des Américains. Il y a très peu de livres d'histoire du canal
l'histoire
de Panama.
Toujours écrite par les vainqueurs.
En français. Oui, mais c'est pour ça que depuis 2004, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle « Canal français au Panama en français ». Tout le monde m'a pris pour un fou, ça s'est vendu comme des petits pains, parce qu'effectivement, personne ne connaît cette histoire-là. Le travail qui a été fait au Panama est absolument fondamental.
Mais si personne ne la connaît, c'est certes parce que les histoires ont été écrites largement par des historiens des techniques américains, mais c'est aussi parce qu'en France, Panama a gardé un halo de soufre épouvantable. C'est immédiatement, on pense à l'effondrement de l'ESSEPS et au fameux scandale financier.
Absolument. C'est pour ça que moi j'insiste en disant que c'est un splendide désastre. C'est-à-dire que c'est un désastre, évidemment, mais là on est quand même pratiquement 50 ans plus tard.
Bah oui, il est temps
donc il serait
de voir
temps de reconnaître
avec...
aussi le côté splendide de l'histoire, parce que c'est grâce à Ferdinand de Lesseps qui a posé son doigt sur la map monde et qui a dit le canal il passera là et pas ailleurs.
Une espèce de...
Que le canal y est aujourd'hui.
Il avait quand même, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Il avait quand même un peu un égo surdimensionné, le Ferdinand de Lesseps.
Ferdinand de Lesseps, c'est un incorrigible narcissiste.
Voilà, c'est ça.
Pour être très clair, tout son parcours est celui du narcissiste qui a des grandes idées et qui veut absolument les prouver. Il passe pas loin du désastre pour Suez, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est son fils. Charles de Lesseps qui va lui écrire une lettre en lui disant déjà, à Suez, vous êtes passé, vous avez réussi, mais par miracle. Et là, maintenant, vous voulez tenter un second miracle. Donc, effectivement, il a ce côté complètement narcissiste, mais il a aussi ce côté de génie visionnaire. C'est-à-dire qu'il a aussi ce côté... Ferdinand de Lesseps n'est pas un ingénieur. D'ailleurs, il se méfie énormément des ingénieurs. Il n'est pas un homme d'affaires. Il se méfie aussi des hommes d'affaires. C'est un diplomate et un promoteur.
Alors,
il a une idée et il négocie pour essayer de la faire passer.
Comme un grand nombre des acteurs de cette affaire avaient trempé dans toutes sortes d'histoires de trafic d'influence, etc., ça a créé un scandale politico-financier qui a abouti à un procès, ou même, nous dites-vous, à deux procès en vérité.
Deux procès. Ben d'abord, il faut se rendre compte que la différence qu'il y a entre Suez et Panama, qui sinon ont été gérés de façon à peu près similaire de la part de la compagnie, c'est le climat politique.
Ben c'est-à-dire que Suez, c'est le Second Empire.
Suez, c'est le Second Empire, et un Second Empire qui va autoriser Ferdinand de Lesseps, au moment où il en a le plus besoin, à émettre une obligation à l'eau, et grâce à ça, il va lever les fonds et finir le canal de Suez en deux ans. Alors que quand la situation se présente en France... On est dans la Troisième République qui est sans doute, avec peut-être l'époque actuelle, la plus corrompue que connue la France. Et nous sommes dans un moment où...
Je vous laisse la responsabilité de tous vos propos.
Absolument. Et Charles de Lesseps, je pense que les historiens vont pouvoir l'analyser. Et Charles de Lesseps s'explique au procès, d'ailleurs, il dit des gens, ils en sortaient sous tous les pavés. C'est-à-dire que plus la compagnie avait des problèmes de gestion, plus les gens arrivaient, oh là, ils voulaient monnayer leur appui pour tout. Pour un article, pour un prêt, pour un vote, pour un non-vote, pour un silence, une autorisation. Il y avait des demandes de corruption, c'était qui n'avait pas eu son pot de vin. Donc effectivement, il va y avoir deux procès. Le procès des panamistes, c'est les dirigeants
oui,
de la compagnie.
Ceux qui avaient lancé l'affaire.
Ceux à qui on associe, alors il y a Ferdinand Lesseps qui ne va pas comparaître parce qu'il ne va
il
pas très
horrible,
bien.
Hein.
Vous savez, il y a d'autres gens aujourd'hui, anciens présidents qui ont aussi un peu le même genre de faiblesse au moment où on leur demande des comptes. Donc c'est son fils qui va écoper pour lui. Et puis nous avons aussi Gustave Eiffel, pour qui ça va être la fin d'une carrière, parce que Gustave Eiffel avait demandé de très solides avances qu'il a investies dans la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel est construite avec l'argent du Panama. Et au moment où on lui demande de rembourser, deux choses. D'abord, un, il n'a plus exactement le cash. Et deux, le contrat qu'il a signé ne prévoyait pas l'exécution partielle. Or, il avait déjà construit certaines portes d'écluse, mais pas les autres. Et donc, sur cette base-là, il va se retrouver mêlé à tout ça et il va perdre son statut d'ingénieur. Donc la France, bien sûr, a un trauma sur cette histoire du Panama.
Ce qui n'enlève rien, nous dites-vous, aux études qui ont été faites, aux travaux qui ont été lancés, aux chantiers qui ont été menés, y compris dans des circonstances parfois extraordinairement difficiles, et même, me disiez-vous il y a encore un instant, au matériel qui sera repris, et d'ailleurs non seulement le matériel, mais le personnel, tout ça va être gentiment repris par le gouvernement américain pour mener à bien le deuxième canal de Panama, le canal qui va s'ouvrir, le canal américain. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du canal de Panama, avec vos invités Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis, et Marc de Banville, historien et grand reporter.
Marc de Banville, dont nos auditeurs, en tout cas ceux qui sont équipés d'Internet,
sur Europe 1.fr,
sur Europe 1.fr, auront pu constater qu'il est venu avec un très joli chapeau qu'on appelle, n'est-ce pas,
un Panama. Et alors, ce, d'où ça vient, ce terme ? Bien longtemps avant, avant même que les Français arrivent au Panama, parce que moi j'ai un article donc, qui est publié par une revue française dans les années 1850 et qui parle déjà de chapeaux Panama. Alors évidemment, les chapeaux Panama sont faits en Équateur. Ils sont en revanche commercialisés au Panama et je pense que le plus probable, même si on n'a pas d'explication absolument stricte, c'est que c'est au moment où s'ouvre le chemin de fer de Panama et de la ruée vers l'or que les voyageurs en direction de Californie ou au retour achètent au Panama ces chapeaux de paille si légers qui vont si bien au soleil et qui sont connus comme étant les Panama. Donc après, les Français vont en ramener aussi et sur les boulevards, on verra les ingénieurs avec leurs Panama. Et ensuite, Theodore Roosevelt, en 1906, en allant au Panama, va populariser aux États-Unis aussi la mode du Panama.
Alors, vous êtes venu sans chapeau, vous, Nicole Bacharan.
Oui, modestement.
Très modestement. Il y a un personnage, on parlait de cette initiative privée française. L'initiative américaine, nous disait Marc de Banville il y a un instant, est une initiative publique. Et à la tête de l'État américain à l'époque, il y a le président Roosevelt, Theodore.
Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, il devient président en 1901. Il est vice-président, en fait, à ce moment-là. Et le président McKinley est assassiné. Le vice-président Theodore Roosevelt lui succède. Et c'est un homme qui, je trouve, incarne exactement cette période des États-Unis dont on essaye de tracer un petit peu les contours aujourd'hui. Le pays, à ce moment-là, il est pratiquement complètement industrialisé. La banque, le chemin de fer, etc., tout ça est dans une forme d'apogée. C'est un pays de très forte immigration, hein, 12 à 16 millions au tournant du siècle.
Immigration, l'époque des grandes migrations.
Voilà, parce qu'il y a de l'emploi, bien évidemment, sûr. Beaucoup d'emploi. Les gens viennent d'Europe centrale, d'Europe du Sud.
Et de l'Est, oui.
Et c'est une immigration qui est assez mal perçue aux États-Unis. Ce ne sont pas des anglo-saxons, ce ne sont pas des protestants. Et Roosevelt, il incarne à la fois ce capitalisme triomphant, mais c'est aussi un progressiste, puisqu'il veut le réguler d'une certaine manière, avec quelques vision sociale, mais aussi c'est une vision de ce qu'on ne pourrait plus parler aujourd'hui, mais de la race américaine, de la race anglo-saxonne supérieure, avec une meilleure morale, avec un meilleur goût du travail, et qui ne doit surtout pas se laisser affaiblir ou envahir par tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas du tout les mêmes vertus. Il parle facilement, pour les femmes américaines qui essayent de limiter un peu les naissances, de suicide racial. C'est-à-dire qu'on va être envahi par des gens de l'Est, du Sud, des gens qui lui semblent totalement inférieurs. Et c'est aussi l'époque où cette fameuse doctrine de Monroe qui isolait les États-Unis, qui était OK.
Expliquer ce que c'est que la doctrine Monroe en deux mots.
En fait, ça remonte loin, mais je vais faire très très vite. Oui. Les pères fondateurs que vous avez vus, qui est Franck, Jefferson, Washington, leur vision c'était que les Américains s'étaient éloignés de l'Europe. Ils ne voulaient plus s'en mêler. Ils étaient à l'abri entre leurs deux océans. Ils ne se mêlaient de rien. 1923, la doctrine Monroe, c'était un avertissement aux puissances européennes, notamment l'Espagne, pour qu'elles ne s'avisent pas de s'approcher des régions de l'Amérique du Nord. Et Theodore Roosevelt, lui, va plus loin en disant, pour maintenir au fond cette protection des deux océans, s'il le faut, nous interviendrons. Ah, pas de gaieté de cœur, mais s'il y a un devoir de police nécessaire,
nous interviendrons dans ce discours.
Et c'est effectivement d'ailleurs ce qu'il va faire pour mettre la main sur Panama.
Alors au tout début, quand les Américains s'intéressent au chantier en béant, si je puis dire, de Panama, on est sous la présidence McKinley, nous dites-vous.
Oui.
Le vice-président est le président Theodore Roosevelt, qui ensuite va donc effectuer ses mandats et diriger en quelque sorte les opérations. Après quoi, il y aura le président Taft et celui qui inaugure en 1913, c'est le président Wilson,
voilà,
celui qu'on connaît pour la Première Guerre mondiale, évidemment. C'est lui qui a appuyé sur le bouton, alors,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est lui
Wilson.
Qui a appuyé sur le bouton. Et d'ailleurs, le voyage de Theodore Roosevelt à Panama en 1906, c'est le premier voyage d'un président américain en exercice hors de son pays. Et le deuxième, ce sera Wilson quand il viendra à Paris en 1918-19.
Et là, lui, il va jusqu'à franchir carrément l'océan. Ce président Roosevelt nomme l'homme qui va tout débloquer, c'est le fameux Stevens. C'est lui le grand personnage, Marc de Banville.
C'est compliqué, il y a plusieurs grands personnages en l'occurrence. En fait, déjà, il faut se rappeler une chose, c'est que jusqu'en 1901, la fin 1901, c'est-à-dire jusqu'à McKinley, le projet officiel des États-Unis, c'est le canal du Nicaragua. Le canal du Panama va être adopté sur un amendement proposé en moins de 6 mois. Il y a un changement complet de politique en moins de 6 mois entre le janvier 1902
totale.
Et juin 1902. Il y a tout d'un coup, on passe du vote d'une loi sur le canal du Nicaragua qu'on attend depuis 10 ans. Et le projet, ça fait 50 ans que les États-Unis ont déclaré leur intention de creuser un canal au Nicaragua. Et tout d'un coup, il y a un ami de Roosevelt, de Hanna aussi, qui est le trésorier du parti républicain et le leader de la minorité au Sénat, qui arrive, M. Spooner, et qui dit « on va faire un amendement, c'est-à-dire on va faire la loi du Nicaragua, mais avant on essaye le Panama. Et si on arrive à acheter la compagnie française pour 40 millions, si on arrive à obtenir la concession de la Colombie pour 10 millions,
on ira.
Dans ce cas-là, on fait le Panama. Si ça ne marche pas, on revient au Nicaragua. » Et c'est sur cet amendement Spooner, avec 8 voix de différence, que le canal du Panama va être creusé. Suite à un débat qui est un monument de lobbyisme politique, d'ailleurs.
Il nous reste 3 minutes, donc un mot de Stevens.
Ouais, alors bon, Stevens, surtout, c'est celui qui dit à un moment, le problème du canal de Panama, c'est pas tellement le creusement, c'est l'évacuation des déblais. Et c'est lui qui va doubler la ligne de bout à l'autre et qui va mettre le télégraphe partout, qui va tout s'organiser. Une fois qu'il a résolu tout ça, une fois qu'il a eu un plan, qu'il a proposé à Roosevelt le plan avec écluse qui va bien, qui va créer un énorme lac artificiel en plein milieu du Panama, une fois qu'il a résolu tout ça, il s'en va.
Mais pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Une, c'est que jusque-là, même si pendant le temps où lui faisait le chemin de fer, eh bien, il y avait Gorgas qui pouvait s'occuper d'éradiquer la fièvre jaune, il avait quand même peur des fièvres. Il avait son propre cercueil qui l'accompagnait tout le temps, qui était prêt au cas où.
Gorgas, c'est ce médecin qui va tout révolutionner.
C'est un médecin militaire, lui aussi. De toute façon, tous les gens qui sont les personnages clés, sauf Stevens, sont militaires sur l'histoire du canal de Panama. Je dirais même Roosevelt, qui était quand même héros de guerre lors de la guerre cubano-américaine, hispano-américaine, à Cuba, entre autres. Là, il était à Cuba. Et donc, voilà, quoi, c'était Stevens. Alors, donc, Stevens, bon, qui est un individu assez extraordinaire. Il va résoudre le tout et après, le gouvernement des États-Unis va nommer un militaire en qui Roosevelt aura confiance. Alors parce que, comme vous l'avez bien dit, jusqu'en 1911, il y avait un manque de confiance. Ce qui veut dire que s'il y avait eu une compagnie privée, elle aurait coulé exactement pour les mêmes raisons que la compagnie française.
Mais en fait, c'est uniquement la structure publique de la compagnie qui va prendre le relais des Français qui, selon vous, explique le succès de l'opération.
Comme sur la plupart des grands projets, je veux dire, le canal de Suez est à ce titre une exception, parce que, par exemple, bon, le tunnel sous la Manche, on voit bien aujourd'hui tous les problèmes que ça pose d'avoir été creusé par une compagnie privée. En fait, ce genre d'investissement, dont les retombées sont à très long terme et sont beaucoup plus, avec un éventail beaucoup plus large que le simple péage, sont des avantages pour des gouvernements, des avantages de politique publique et pas forcément des avantages pour une compagnie privée.
Ça, c'est quand même un paradoxe, Nicole Bacharan, quand on parle des États-Unis et qui plus est des États-Unis ultra-capitalistes et libéraux de cette époque.
Oui, mais je pense qu'ils ont quand même toujours eu une très forte notion de leurs intérêts. Et vous savez, il y a des légendes comme ça, comme par exemple le fait qu'on paierait très peu d'impôts aux États-Unis. Je peux vous dire que ça n'est pas vrai, que le gouvernement a les moyens d'agir et que quand il pense que c'est dans son intérêt, particulièrement un intérêt international, il a la main assez lourde pour intervenir.
Quelles ont été les conséquences de... Il reste une minute pour répondre à cette question, Marc de Manville. Quelles ont été les conséquences du creusement et de l'ouverture de ce canal de Panama? Est-ce que ça a substantiellement modifié les routes commerciales, les échanges, l'économie même de la région et du monde?
Ah bah oui, le canal de Panama, surtout, il ouvre au port de la côte nord-est des États-Unis, le Pacifique. Et entre autres, le premier objectif de l'ouverture du Pacifique, c'est d'aller sur ces terres que les Espagnols auparavant avaient exploitées, et puis que les Anglais, sur lesquels les Anglais avaient une sorte de monopole, qui était entre autres le Pérou, le Chili, avec leurs ressources. Des ressources qui vont être utilisées tout de suite, parce que le canal est inauguré en août 14, c'est-à-dire au moment où commence la Première Guerre mondiale, et donc il va servir tout de suite à produire un armement de dernier cri, de façon à le refiler à tout un tas de clients en Europe. Et ensuite, il va servir évidemment de façon extrêmement importante au niveau stratégique pour pouvoir opérer une flotte sur deux océans. Et donc, dès que les États-Unis auront un nouveau bateau de guerre, il passera par le Panama, les premiers sous-marins, les premiers porte-avions, tous les premiers modèles passent par le Panama de façon à pouvoir rayonner sur les deux océans. C'est là où il va jouer un rôle extrêmement important pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il va être un objectif japonais qui avait un plan pour le détruire. Ça, je vous en dirai plus dans une autre émission.
Voilà, exactement. Je vois
et en tout cas, aujourd'hui,
vous maîtrisez parfaitement le timing.
Voilà, le canal de Panama est très important. Bien sûr, il est 5 fois moins important que Suez, mais il est beaucoup plus stratégique. Surtout, c'est un canal technologique. C'est le canal du Just on Time. Le principal concurrent du Panama, c'est le transport intermodal aux États-Unis. Mais qui coûte beaucoup plus cher.
Qu'est-ce qu'on appelle le transport
intermodal ? C'est-à-dire qu'en gros, vous apportez un gros bateau de Shanghai, vous le videz sur un port à Auckland ou en baie de San Francisco, vous le chargez sur des trains, sur des camions, et vous le faites traverser les États-Unis. Alors là-dessus, c'est plus cher, c'est plus rapide, mais c'est plus cher, et surtout, c'est moins sûr. Au niveau des dates d'arrivée et de fin, on a beaucoup plus de problèmes. S'il y a une tempête de neige, s'il y a un accident, s'il y a un tunnel qui est bloqué, s'il y a eu un mouvement de grève, il y a des problèmes sur la route.
Merci beaucoup Marc de Banville. Je rappelle le titre de votre beau livre, ça s'appelle tout simplement « Canal de Panama, un siècle d'histoire au pluriel » et c'est coédité par Glénat et la Société de Géographie. Je rappelle le titre du dernier livre de Nicole Bacharan, parce que si je vais faire toute la liste, alors nous y serions pour un moment. C'est un livre passionnant avec énormément d'anecdotes sur les secrets de la Maison Blanche. Ça a été publié chez Perrin à l'automne dernier. Merci beaucoup à tous les deux.
Cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Alex, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Alex aimerait connaître l'origine de l'expression « montrer patte blanche ».
Je ne sais pas si... Alors, je l'ai appelé Axel tout à l'heure, mais c'est donc bien Alex. Je ne sais pas si Alex connaît ce conte qu'on retrouve dans toutes les traditions, et notamment chez Ésope, repris par La Fontaine, bien entendu, chez Grimm, dans Le Loup et les 7 chevreaux. On me racontait ça à l'école maternelle, je me rappelle très bien. La chèvre quitte la maison, vous savez, en laissant derrière elle son petit, mais elle dit « attention, quand je frapperai, tu me demandes moi bien de montrer ma patte pour être bien sûr que c'est ma patte blanche parce que le loup, lui, a une patte noire, etc. » Et puis, vous savez ce qui se passe, finalement, c'est le loup qui frappe à la porte. Alors, selon les conteurs, certains disent que le loup montre sa patte noire et que c'est ce qui sauve le chevreau, et d'autres disent que le loup rusé, c'est Grimm qui raconte ça, va tremper sa patte dans la farine et comme ça, il va rouler dans la farine, si je puis dire, le pauvre chevreau. Voilà ce que nous dit La Fontaine dans sa fable « Le loup, la chèvre et le chevreau ». Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point, s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. La morale de non seulement de cette fable, mais de toute notre émission, je la redis dans la voix même de Jean de La Fontaine. Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trop en cela ne fut jamais perdu. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, aujourd'hui nous recevons une collègue. Elle a son bureau, c'est simple, juste en face d'une autre. C'est Alessandra Sublet, que vous pouvez écouter tous les dimanches sur Europe 1 et que vous retrouverez demain soir sur France 2. Mais pour l'heure, elle est avec nous et pendant une heure.
C'est vrai qu'elle n'a pas eu tellement de chemin à faire. Merci beaucoup Marion, nous nous retrouvons demain Céline.
Avec grand plaisir Franck, à demain.